RCF. L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois.
Votre invité ce matin, Pierre-Hugues, est le général Christophe Gomard, ancien directeur du renseignement militaire et ancien commandant des forces spéciales.
Bonjour général Christophe Gomard.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Samedi, Emmanuel Macron a à nouveau évoqué l'hypothèse de contrer les forces russes avec, je cite, « des opérations sur le terrain ». Alors le chef de l'État redit que ça n'est qu'un scénario parmi d'autres, mais qu'il faut s'y préparer. Mais je vais commencer avec cette question toute simple. La France a-t-elle les moyens militaires aujourd'hui d'envoyer des troupes en Ukraine ?
Alors on a toujours des moyens d'envoyer des troupes en Ukraine, mais elles tiendront pas longtemps. C'est-à-dire que la France, de mon point de vue, est le pays, comment dirais-je, qui a l'armée française la plus opérationnelle en Europe.
D'accord.
Mais cette armée, en dépit de ses excellents chefs, de ses excellents personnels et du bon matériel qui l'équipe, en fait, est à une taille insuffisante pour faire une différence.
Pas longtemps, dites-vous, mais combien de temps ?
De mon point de vue, quelques jours, vu les stocks de munitions qui existent et vu les matériels. Si je vous prends un exemple, les Russes, en 2 ans, ont perdu 2900 chars. L'armée française dispose, elle, de 200 à 220 chars Leclerc. En termes d'avions de chasse et de rafales, c'est moins de 200. Donc vous voyez qu'avec ça, on ne tient pas très longtemps. Et en termes de munitions, et on voit bien l'utilisation qui est faite des munitions entre les Ukrainiens et les Russes, nous tiendrions quelques jours uniquement.
Est-ce que c'est normal tout de même que ce scénario soit envisagé par l'exécutif parmi d'autres ?
Alors je pense que dans le cas de la déclaration d'Emmanuel Macron, de notre président de la République, c'est une manière de dire aux Européens qu'il faut sans doute se réveiller pour monter une défense européenne beaucoup plus importante qu'elle n'est aujourd'hui. Parce que finalement, aujourd'hui, ce qui changerait la donne, c'est les seuls en fait en mesure de répondre à une agression russe, j'allais dire, c'est la puissance militaire américaine qui peut peser face aux Russes aujourd'hui. Si on agit en coalition, c'est pour ça que de mon point de vue, il faut développer le pilier européen de l'OTAN.
Parce qu'aujourd'hui, ce pilier est insuffisamment développé ?
Alors oui, quand on met bout à bout, j'allais dire, le volume des chars, des canons et des avions des différents pays de l'OTAN, ça fait beaucoup, mais ceux qui pèsent énormément au sein de l'OTAN, ce sont les États-Unis d'Amérique, qui, dont 100 à 120 000 soldats sont déjà présents sur le sol européen, par exemple.
Nous sommes au lendemain de l'élection de Vladimir Poutine, de la réélection de Vladimir Poutine à la tête de la Fédération de Russie. Est-ce que agiter le chiffon rouge d'un envoi de troupes permet peut-être de lui dire bah, « tu as certes 87% des voix dans ton pays, mais la pression de la communauté internationale, elle, est toujours là ».
Oui, c'est vrai qu'il y a une vraie pression. Mais on sent bien, si vous voulez, qu'on est à un moment assez crucial pour les Ukrainiens qui, sur un plan terrestre, ont tendance un peu à reculer par manque de munitions et par manque d'hommes, alors qu'à l'inverse, les Russes avancent grâce à leurs tonnes de munitions, enfin, c'est-à-dire leurs milliers d'obus qu'ils détiennent, enfin, leurs millions plus exactement, même s'ils perdent des bâtiments en mer Noire, même s'ils perdent quelques avions et quelques drones. Sur le terrain, en réalité, ils avancent, alors ils progressent. On appelle ça du grignotage, centaines de mètres par centaines de mètres. Mais en tous les cas, pour le moment, les Ukrainiens reculent. Et c'est bien pour ça que la communauté internationale doit continuer de soutenir l'Ukraine en lui donnant des munitions particulières. Je crois que c'est le Premier ministre polonais qui, suite à la réunion avec Olaf Scholz, Emmanuel Macron à Berlin, a dit « écoutez, moins de mots, plus de munitions ».
Oui, parce qu'effectivement, on a du mal à voir un petit peu les enjeux en ce moment de ce conflit, de la situation militaire sur place. L'armée ukrainienne semble à bout de souffle. Pour autant, de part et d'autre, on a l'impression qu'il y a cette communication autour d'un manque de munitions. Il y a la question aussi de l'information. Dans quelle mesure on manque vraiment de munitions aujourd'hui ? La situation, quelle est-elle ? Est-ce plutôt l'Ukraine qui en manque crucial de munitions face à une Russie qui en aurait beaucoup ?
Ah oui, ça c'est évident. Mais la Russie, elle, a une vraie profondeur stratégique, a des vraies usines d'armement, est passée en économie de guerre, alors que l'Ukraine dépend entièrement, finalement, de la profondeur stratégique de l'Europe de l'Ouest, enfin de l'Europe, tout simplement, et des États-Unis. Or, la France, aujourd'hui, je crois, fabrique moins de 3000 obus par mois, quand les Ukrainiens en consomment 3000 à 5000 par jour. Et donc on voit bien derrière qu'il y a une petit différentiel avec les Russes qui ont des stocks de plusieurs millions d'obus. Et ce qui fait la différence aujourd'hui dans cette guerre de haute intensité, qui est une guerre d'attrition dans laquelle l'artillerie en fait mène la guerre, eh bien, c'est qu'il faut disposer d'un certain nombre d'obus que n'ont pas les Ukrainiens.
Qu'est-ce que vous entendez par ces termes, guerre d'attrition? C'est pas forcément très clair pour nos auditeurs. Qu'est-ce que vous voulez entendre par là, général Christophe Gomard?
Oui, pardon. Une guerre d'attrition, c'est-à-dire qu'en fait, le but de cette guerre, c'est de détruire, de faire le plus de mal à son adversaire. Détruire ses hommes, détruire ses chars, ses canons, détruire ses infrastructures, de façon à pouvoir progresser. Et on voit bien la tactique russe. La tactique russe, c'est d'écraser sous les obus tout ce qui est devant eux. Et on voit bien l'état des villes ou des villages qu'ils prennent, qui sont entièrement détruits. En fait, c'est un savoir-faire, si on peut dire ça, mais qu'on a vu au cours de la Seconde Guerre mondiale, qu'on a vu partout où ils sont allés, finalement, quand on a vu les villes en Tchétchénie. C'est la manière de progresser des Russes, c'est qu'ils écrasent leur adversaire sous des tapis d'obus d'artillerie.
Et face à cela, la volonté d'Emmanuel Macron d'envoyer des troupes, que peut-elle changer, même dans une hypothèse où des troupes françaises iraient et tiendraient? Que peuvent-elles faire face à cette technique, à cette stratégie russe?
C'est tout le problème. Je pense que la déclaration d'Emmanuel Macron, c'est surtout pour dire aux Russes, nous tiendrons ferme et nous continuerons de soutenir les Ukrainiens. C'est de dire aux Français, voilà, il est possible que j'ai quelques spécialistes qui soient là-bas et qu'on soutienne, on conseille les Ukrainiens. Et c'est pour dire également aux autres Européens, écoutez, il faut vraiment qu'on s'entende entre nous. Il faut revoir l'architecture sécuritaire de l'Europe avec derrière, en toile de fond, les Américains qui pourraient peut-être se retirer, en tous les cas, arrêter de soutenir les Ukrainiens. Et donc, on risque effectivement de se retrouver entre Européens et il faut s'entendre entre Européens. On voit bien la difficulté qu'il y a à s'entendre entre Européens, justement.
Parmi les raisons que vous avez évoquées, il y a effectivement la volonté aussi de préparer les esprits en France. Préparer les esprits, c'est aussi très important pour les militaires, pour avoir un soutien de la part des populations civiles.
Oui, bon, on voit bien dans tous les sondages que les Français sont contre l'envoi de soldats français dans cette guerre. Et on les comprend, parce que derrière, ils voient leur frère ou leur père qui pourrait y aller. Je crois que ça n'est pas ce qui est envisagé. Même si le discours d'Emmanuel Macron est en effet très flou, et quand c'est flou, on dit qu'il y a un loup. Parce que quand on lit sa phrase, peut-être qu'à un moment donné, je ne le souhaite pas, je ne prendrai pas l'initiative. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire en réalité. Mais si ce n'est qu'il veut montrer une certaine fermeté face à Poutine. Mais cette fermeté, au-delà des mots, encore faudra-t-il disposer d'un outil de défense qui soit largement renforcé. Or, on n'entend absolument pas le fait qu'on va renforcer notre défense.
Et d'ailleurs, vous parliez de ce côté flou des propos d'Emmanuel Macron. On a découvert aussi cette notion d'ambiguïté stratégique pour Poutine et pour la Russie. C'est aussi une façon pour les Européens d'agiter le chiffon rouge, là encore, et de dire, ben voilà, on va jouer cette ambiguïté stratégique en disant peut-être qu'on viendra, peut-être qu'on viendra pas. Opérationnellement, sur le terrain, ça doit changer des choses pour les forces de Vladimir Poutine, qui doivent peut-être s'organiser davantage en défense qu'en attaque.
Alors, les Russes sont déjà organisés en défense, hein, c'est-à-dire que on a appelé ça la ligne Sourovikine de l'ancien chef militaire sur place. Donc, il a construit des lignes de défense, d'ailleurs, que n'ont pas réussi à percer les Ukrainiens lors de leur contre-offensive l'été dernier. Les menaces dites, prononcées par Emmanuel Macron, en fait, sont là pour dire aux Russes attention à ce que vous faites, parce que aujourd'hui, les Russes détiennent 18 à 20% du territoire ukrainien. Si vous allez beaucoup plus loin, nous serons là pour éventuellement soutenir militairement et au sol les Ukrainiens. Qu'est-ce qu'il en sera dans quelques mois? Je n'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiguïté. Et cette ambiguïté, on s'en sert dans la dissuasion, c'est-à-dire, est-ce qu'on se servira de l'arme nucléaire si nos intérêts vitaux sont menacés? Vous voyez, c'est donc en fait, l'adversaire ne doit pas savoir ce que l'on doit faire. Parce que à la guerre, on gagne quand il y a un effet de surprise et que cette surprise, en effet, c'est-à-dire prend de court l'adversaire. Et c'est pour ça que l'on maintient une certaine ambiguïté, en effet.
On suppose que le chef de l'État dispose d'informations que nous ne possédons pas, que nous n'avons pas. Cette volonté belliqueuse d'Emmanuel Macron, est-ce qu'elle n'est pas un peu inquiétante?
Alors, Emmanuel Macron dit « n'ayez pas peur », mais j'ai plutôt l'impression qu'il agite les peurs. De façon, effectivement, alors, est-ce que c'est pour mobiliser les esprits? Est-ce que c'est pour mobiliser les Européens? Est-ce que c'est pour dire aux Russes, attention, nous serons là? Je ne sais pas la façon dont regarde Vladimir Poutine les déclarations d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'il les prend en compte dans sa propre stratégie? je n'en ai pas l'impression. C'est-à-dire que selon, pour moi, l'objectif russe aujourd'hui, c'est de finir la conquête des oblasts qu'il a annexés. C'est sans doute d'essayer de conquérir Odessa, qu'il considère comme une ville russe. Mais même si Odessa est bien loin de la première ligne russe, puisqu'elle est à l'est du Dniepr, alors que Odessa est à quelques distances quand même du Dniepr, vers l'ouest. Donc voilà les objectifs de mon point de vue d'un Vladimir Poutine. Est-ce qu'on saura l'en empêcher? Ça, je ne le sais pas. Mais en tous les cas, si on ne fournit pas des munitions aux Ukrainiens, je pense qu'il pourra, Vladimir Poutine pourra arriver à ses fins, en effet.
L'armée française est une armée de métier, c'est-à-dire que c'est une armée de professionnels. Il n'y a plus de service militaire en France, évidemment. Est-ce que demain, il faut s'inquiéter d'une mobilisation générale où c'est absolument hors de la pensée militaire française aujourd'hui?
Aujourd'hui, c'est hors de la pensée militaire française. L'idée étant de renforcer le nombre de réservistes sur lesquels, en effet, on pourrait compter en cas de mobilisation. Mais aujourd'hui, le service national a été seulement suspendu. Mais donc, effectivement, mobiliser, c'est toujours possible. Mais c'est-à-dire que si l'on mobilise des jeunes d'une classe d'âge, il faudra les former, les entraîner, les équiper. Et tout ça prendra beaucoup de temps.
Et ça paraît
peu. Quelques mois.
Ça paraît tout de même peu probable.
Mais... Oui, de mon point de vue, c'est peu probable aujourd'hui, oui. Maintenant, si le sol national français était attaqué, ça serait une autre histoire.
C'est possible? Il pourrait être attaqué? Vous pensez pourrait être une stratégie de Vladimir Poutine de commencer à attaquer la France?
Je dirais que le monde est dangereux. De mon point de vue, non. Vladimir Poutine n'a aucunement l'intention ni intérêt à attaquer les pays de l'OTAN. Alors on parle d'attaque des pays baltes. Peut-être, mais en tous les cas, quand on voit les difficultés qui sont les siennes en Ukraine, les difficultés de l'armée russe en Ukraine, on se doute bien qu'il n'est pas en mesure d'attaquer aujourd'hui un pays de l'OTAN. Le fera-t-il? Je ne le pense pas. Maintenant, vous allez me dire, on ne pensait pas qu'il attaquait l'Ukraine. Mais l'Ukraine n'est pas un pays de l'OTAN. L'Ukraine, c'était pour Vladimir Poutine une ligne rouge à laquelle il ne fallait pas toucher. Et donc, quand il a considéré que l'Ukraine risquait de basculer à l'ouest, en effet, il a mené ce que j'appellerais une guerre préventive pour dire aux Occidentaux, il n'est pas question que l'Ukraine tombe de votre côté, même si dans les faits et à la fin, une toute ou partie de l'Ukraine, je pense, rejoindra l'Europe.
Merci beaucoup en tout cas, général Christophe Gomard, d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes l'ancien directeur du renseignement militaire.